on connaît la chanson.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez On connaît la chanson, l'émission où l'on a rendez-vous avec la musique et les musiciens. Quelques jours après les vacances du Nouvel An chinois, le Verbier Festival Chamber Orchestra est arrivé en Chine. Dans ce pays, le premier souffle printanier s'élève en mars et le concert de ce prestigieux orchestre est tenu un jour avant le mois de mars. Peut-être pour accueillir la belle saison pleine de verdure et de fleurs, le printemps. Si vous êtes amateur du ski, vous connaissez peut-être le village suisse de Verbier. Situé au pied des Alpes, le village de Verbier, doté de paysages pittoresques, est une destination touristique reconnue dans le monde. Mais le paysage n'est pas son seul atout pour attirer les visiteurs de la fin du mois de juillet au début du mois d'août. On y accueille le Verbier Festival depuis 1994. Il y a deux décennies déjà, faire d'une station alpine et de son cadre naturel magnifique un haut lieu d'échange et de transmission musicale entre les générations, inviter les meilleurs artistes du monde entier et offrir au public une expérience musicale leur permettant de se côtoyer en toute simplicité dans une ambiance détendue et chaleureuse. Depuis 20 ans, le Verbier Festival est une véritable célébration de la diversité et de la découverte des grands maîtres du passé aux compositeurs contemporains. Mmh. Cette année, le Verbier Festival a décidé de fêter son 20e anniversaire avec le public chinois. Et voilà le Verbier Festival Chamber Orchestra, l'un des orchestres résidents du festival, qui est arrivé en Chine. C'est d'ailleurs la première tournée de cet orchestre dans ce pays, sous la direction du talentueux violoniste russe Kirill Troussov. L'orchestre a joué à Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Pour cette tournée en Chine, Kirill Troussov a préparé un répertoire spécial. L'orchestre a interprété alternativement la pièce Les Quatre Saisons de Vivaldi et Les Quatre Saisons de Bruno Zaire de Piazzolla. Nous allons écouter une interview accordée par deux musiciens du Verbier Festival Chamber Orchestra. Annie Guénette du Québec et Lionel Godet de Suisse. Annie Guénette, une jeune fille svelte aux cheveux courts, est violoniste. Lionel Godet, un beau et grand jeune homme qui a souvent un sourire ensoleillé, maîtrise le violoncelle.
Bonjour, je m'appelle Annie Guénette, je suis violoniste de Montréal et je fais partie de l'orchestre de chambre de Verbier depuis 2006.
Voilà, bonjour, je m'appelle Lionel Côté, je viens de Genève et je joue dans l'orchestre de chambre de Verbier depuis une année.
Tous les deux ont nourri un amour pour la musique dès leur enfance. Et malgré un travail assez dur pour les petits, ils ont persisté dans leur passion.
Alors mes deux parents sont musiciens, Et ma sœur aînée jouait déjà du violon quand j'étais tout petit, donc à force d'entendre de la musique tout le temps à la maison, évidemment que j'avais envie de jouer aussi. Et c'est comme ça que tout naturellement j'ai commencé à faire du violoncelle, à jouer du violoncelle. Ah, depuis tout petit, je crois vraiment, dès le moment où j'étais né, j'entendais de la musique classique tout le temps à la maison, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu depuis que je suis sur cette terre. Évidemment qu'il faut beaucoup de discipline, et comme mes deux parents sont musiciens, ils savent exactement à quel point il faut être très sérieux, à quel point il faut passer beaucoup de temps chaque jour sur son instrument, parce que autrement, tout simplement, ça va être très très difficile d'atteindre un bon niveau. Donc il y a vraiment un investissement très important à ce niveau-là, mais si on aime vraiment la musique plus que tout, et si on a des objectifs précis aussi de pièces qu'on a envie de bien jouer, ou de concerts qu'on a envie de pouvoir donner par la suite, on arrive toujours à trouver de la motivation pour travailler.
De mon côté, alors, moi, mes parents sont pas musiciens, et moi, je pense que j'ai voulu commencer à jouer du violon, c'est plutôt en voyant l'instrument. Le jour où j'ai vu un violon, j'ai tout de suite voulu en jouer. J'étais très intriguée. Plus vieille, par contre, j'avais 9 ans, moi, quand j'ai commencé. Et je me rappelle avoir écouté un peu de musique classique avec ma mère, mais c'était pas quelque chose qui faisait partie du milieu familial. C'était plus... c'est ça. Alors, j'ai pris des cours, moi, à l'école. On était une classe de 30 élèves. C'était en groupe, là. C'était un truc... c'était pas familial, c'était plutôt... c'était à l'école que ça se passait pour moi.
Quant à leur compositeur préféré, voici ce qu'ils ont dit.
Alors, un compositeur préféré, j'en ai plusieurs. C'est une question assez difficile. Mais je suis très attachée à Bach, bien sûr, je pense, comme la plupart d'entre nous. J'ai aussi un petit faible pour Bartok.
Moi, c'est plutôt les compositeurs romantiques en général. Brahms, Tchaïkovski, Dvorak, c'est aussi le répertoire le plus intéressant, j'ai envie de dire, pour le violoncelle aussi. Le répertoire romantique, c'est là où le violoncelle a vraiment commencé à pouvoir chanter et jouer autant qu'il le fait aujourd'hui. Et donc forcément que c'est ce genre de pièces que j'écoute avec le plus de plaisir.
Par rapport à la musique symphonique, la musique de chambre est encore une forme d'art pas assez popularisée. Lionel nous a expliqué les différences entre les deux.
Alors, l'orchestre de chambre, en principe, est, on va dire, le premier orchestre qui a été créé depuis la période baroque. Donc, c'est très simple, en fait. L'orchestre de chambre est là, généralement, pour interpréter des pièces, soit de Mozart, de Haydn, de la période classique ou baroque. Et puis petit à petit, les compositeurs ont voulu avoir un orchestre toujours un peu plus grand. Mmh. Et c'est surtout à la fin de la période classique, début de la période romantique, que le gros orchestre symphonique qu'on connaît aujourd'hui est né. Et il s'agit tout simplement d'un orchestre plus grand que l'orchestre de chambre, qu'on appelle maintenant un orchestre symphonique. Et effectivement, maintenant, comme le répertoire est très grand et que la période romantique a énormément d'œuvres orchestrales, on a plus l'habitude de voir des orchestres symphoniques, mais il faut savoir que l'orchestre qui a été créé, on va dire, avant l'orchestre symphonique était l'orchestre de musique de chambre.
D'accord. Pour vous, est-ce qu'il y a une préférence entre les deux ou pas?
Alors, il y a deux aspects que je préfère dans l'un ou l'autre. L'orchestre de chambre, pour moi, a un avantage vraiment très important, c'est le fait qu'on soit donc beaucoup moins nombreux sur scène. Donc, on arrive vraiment à s'entendre mieux. Il y a beaucoup plus de cohésion et d'écoute entre les musiciens généralement parce que c'est une formation assez petite. Par contre, évidemment que le répertoire de l'orchestre symphonique est beaucoup plus grand, beaucoup plus ample, il y a beaucoup plus d'instruments, donc c'est un son qui est plus impressionnant, j'ai envie de dire. Et comme j'adore la musique romantique, évidemment que j'ai envie de jouer dans un grand orchestre symphonique aussi pour jouer ces pièces romantiques.
D'accord. Annie?
C'est très drôle parce que, comme on disait, on a des compositeurs préférés différents. Moi, je préfère l'époque baroque et classique. Donc, moi, je suis tout à fait orchestre de chambre pour les mêmes premières raisons que Lionel a mentionnées plus tôt. On a peut-être une participation différente, dont une écoute et on sent qu'on peut s'impliquer peut-être un petit peu plus. Mais aussi pour le répertoire. Moi, j'adore tout le répertoire d'orchestre de chambre. Donc, je suis orchestre de chambre. Voilà.
quelles sont les caractéristiques qui distinguent le Verbier Festival des autres festivals?
Oh, les caractéristiques, Verbier est un très grand festival dans tous les sens du terme, très renommé, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de concerts. Je me rappelle la première fois que je suis allée, d'avoir été complètement, j'ai même pas le mot en français, submergée, j'allais dire, overwhelming. Ouais. J'ai été complètement submergée, il y avait tellement dans une journée qu'on peut pas tout voir. Donc, il y a beaucoup de festivals de musique qui sont plus petits, plus intimes. Ça, c'est définitivement un qui est très grand, qui a aussi plusieurs volets. Une autre particularité, c'est que c'est international, donc il y a beaucoup de gens de plusieurs pays. Là, dans mon cas, en tout cas, c'est la plus grande diversité que j'ai vue jusqu'à maintenant.
Une autre grande particularité du festival, c'est qu'on est très très loin des grandes salles de concert, des grandes villes. Ça a vraiment lieu en pleine montagne. Donc, d'une part, c'est incroyable de voir que le public se déplace jusqu'à la montagne pour écouter les concerts. Donc, ça prouve, comme il a été dit tout à l'heure, que l'affiche du festival est vraiment extrêmement prestigieuse et qu'il y a des artistes incroyables, beaucoup de concerts. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'aller à la montagne. Mais évidemment que les auditeurs aime aussi ce festival justement pour ça, parce qu'on est en pleine nature, dans les montagnes suisses qui sont magnifiques, et donc les gens adorent aller faire des randonnées en montagne la journée, et puis le soir écouter de la musique dans un cadre vraiment très très différent du cadre urbain et des grandes salles de concert dont on a plutôt l'habitude.
Qu'apporte cette expérience à ces deux jeunes musiciens?
Alors pour moi, c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude en été de faire soit des masterclass où on prend des cours sur le répertoire plutôt de soliste. Et puis j'avais fait l'académie aussi du festival où là encore on est plus dans un répertoire de soliste. Et je voulais vraiment à un moment donné faire de l'orchestre. Et comme j'ai 25 ans et qu'il y a quand même une limite d'âge aussi à Verbier, je crois que c'est 25 ou 26 ans, je me suis dit que c'était le dernier moment pour le faire. Et je suis vraiment très très heureux que j'ai décidé cet été de vraiment participer à cet orchestre et de jouer dans un orchestre incroyable, d'un niveau merveilleux, avec justement des gens des quatre coins du monde. Donc c'était vraiment une expérience formidable, et maintenant elle se prolonge avec l'orchestre de chambre. Avec ces tournées, on est tellement heureux d'être ici en Chine et on se réjouit beaucoup pour ces concerts à venir.
Moi, ça fait plusieurs années que je fais l'orchestre de Verbier. J'ai d'abord fait l'orchestre symphonique, mais maintenant l'orchestre de chambre. Donc oui, c'est une expérience qui se prolonge, puis on est toujours content qu'elle se prolonge. On a vu beaucoup de pays, et moi, puisque je suis du côté de l'Amérique, c'est quand même intéressant de venir travailler en Europe. Mmh. C'est ça, de garder contact, de découvrir autre chose, de voir ce qui se passe un peu ici avec des gens qui apportent chacun leur bagage culturel et musical. Donc, chacun a un peu sa façon de travailler. C'est assez particulier de rassembler tout ça et de voir à quel point on peut avoir, en tout cas, d'arriver à un résultat très satisfaisant. Voilà.
Les jeunes sont souvent intéressés par la musique pop et rock. Que faut-il faire pour rendre la musique classique plus accessible à un public plus large et aux jeunes en particulier?
Je pense que le cadre de Verbier, en tout cas dans mon cas, si j'étais non-musicienne, ce serait très attirant de faire le mélange montagne, paysage absolument splendide et concert comme ça au travers des activités sportives. Je trouve que ça, c'est un bon contexte.
Je pense qu'il y a tout un travail d'éducation qui est très important. La musique classique, malheureusement, je pense qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur seulement quand on a quand même une oreille un petit peu développée, beaucoup plus que de la musique pop ou de la musique qu'on entend la plupart du temps à la radio. Et je pense que ça commence par l'éducation familiale, donc à la maison. Si les parents, dès que les enfants sont très jeunes, leur font écouter de la musique classique, je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité à apprécier cette musique. Et puis après, évidemment, qu'il y a aussi l'éducation scolaire. Donc là aussi, en Europe, en Amérique, il y a vraiment des programmes qui sont très très différents suivant les écoles. Il y a certaines écoles aux États-Unis où il y a vraiment un énorme travail qui est fait pour les classes de musique avec des profs qui sont vraiment très très investis. Et puis il y a d'autres établissements qui ont très peu d'éducation musicale. Donc évidemment que ces enfants-là auront beaucoup plus de mal à apprécier la musique classique, je pense. Et donc c'est vrai que ça commence à un très jeune âge, vraiment. Il faut essayer de faire en sorte que les jeunes, vraiment les tout petits enfants, puissent déjà avoir accès à cette musique et la comprendre et vraiment l'apprécier. Et puis après, je pense qu'il y a une question de maturité aussi. C'est vrai que le public de musique classique est beaucoup plus âgé en général, mais je pense que ça fait partie du développement. Moi aussi, quand j'avais 17 ans, j'aimais bien écouter du rock, du metal pour me changer les idées. Et je pense qu'à un certain âge, quand on a, je sais pas, 30, 40 ans, on se calme peut-être un peu, on a moins besoin de. Je pense que c'est vraiment un aspect qui correspond à une certaine maturité aussi. À un moment donné, on a peut-être moins besoin de bouger, on a plus envie de calme quand on travaille, quand on est dans la vie professionnelle, qu'on a des journées fatigantes et qu'on rentre. On va peut-être plus écouter du Schubert ou du Mozart pour se détendre que du métal ou du rock. Donc, je pense que c'est un élément qui fait partie aussi de cette musique quelque part.
Dans cette jeune formation, il y a deux visages chinois, dont Zhong Mi, violoncelliste, et Gao Chan, violoniste. Quelle impression ont-ils laissé à leur homologue?
Oui, je crois qu'il y en a deux. Hein. Je serais ravi de vous en dire un peu plus, mais les deux, je les ai rencontrés hier seulement pour la première fois. Mais je peux déjà vous dire que j'ai une très très bonne impression. Ils étaient vraiment très très agréables. Ils sont venus tout de suite vers moi pour se présenter, pour me dire qui ils étaient, et puis ils nous ont montré aussi comment il fallait manger cette délicieuse nourriture chinoise au restaurant et tout. Donc c'était vraiment un très très bon contact. Et je me réjouis beaucoup de faire la tournée avec eux.
Quelles sont les attentes de Lionel et Annie pour cette tournée en Chine?
Les attentes, c'est sûr que on n'a pas tant de temps pour visiter, donc faut pas trop se faire d'idées, mais de peut-être goûter un peu à la culture. C'est sûr que même si on n'a pas le temps de visiter les endroits desquels on entend toujours parler, on peut quand même s'immerger dans le peuple, découvrir un peu la culture, la nourriture, sentir le pouls de la ville.
Oui, tout à fait, vraiment essayer de s'imbiber de maximum d'impressions possibles, que ce soit en rencontrant justement des gens merveilleux de Chine qui sont là pour prendre soin de nous, pour faire en sorte que tout se fasse bien, et pour l'instant tout va vraiment très bien. Et puis évidemment la nourriture, c'est toujours une chose qu'on aime bien découvrir. Et puis moi j'ai eu de la chance, j'ai pu aller voir la Cité Interdite hier. J'avais un vol qui arrivait assez tôt, donc j'ai eu énormément de plaisir à découvrir ce lieu vraiment mythique, et c'était très très beau, très très impressionnant. Donc je serais déjà content de repartir avec ce souvenir.
À la fin de l'interview, Lionel s'est dit qu'il a déjà interprété une composition chinoise.
Pensez-vous à jouer ou collaborer avec un orchestre chinois ou pas?
Si l'occasion se présente, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et c'est vrai que j'avais joué une pièce chinoise il y a 2 semaines avec orchestre, et c'est une musique qui peut être vraiment très très belle. Parfois peut-être un peu cliché, en tout cas en Europe, c'est vrai que souvent on prend ces petites mélodies comme quelque chose d'un peu cliché, mais c'était une pièce magnifique. Évidemment que comme il vit à Paris, il y a beaucoup d'influences de la musique contemporaine française, mais il y avait aussi toutes ces magnifiques mélodies traditionnelles chinoises. C'était vraiment un grand plaisir de jouer cette pièce, et j'espère peut-être la jouer justement une fois en Chine avec un orchestre. Ce serait une merveilleuse expérience.
Thank you. J'adresse un grand merci à Annie et Lionel. Permettez-moi de les appeler par leur prénom. Je les ai retenus pendant 20 minutes pour mon interview après leur répétition la veille du concert à Pékin. Ce que je n'ai pas prévu, c'est que les autres musiciens ne les attendraient pas à l'entrée. Ils étaient déjà partis. Personne ne s'est alors occupé de nous. Les couloirs du Grand Théâtre National formaient un grand labyrinthe. Quand nous avons enfin pu sortir porte sud, c'est-à-dire par la sortie des artistes, je me suis rendu compte qu'il fallait un taxi pour emmener ces musiciens à leur hôtel. Mais en trouver un semble mission impossible. Soit les voitures étaient prises, soit les chauffeurs fuyaient en voyant le colosse, le violoncelle de Lionel. Après plusieurs appels au taxi en vain, nous avons décidé de prendre le métro. Oui, Annie avec son violon à la main, Lionel avec son violoncelle sur le dos, et moi l'enregistreur et l'appareil photo dans le sac. Nous avons dû tourner autour de la moitié du Grand Théâtre National pour atteindre le métro à la sortie nord de l'édifice. Heureusement, ce n'était pas l'heure de pointe. Nos amis s'attendaient à ce que tous les passagers les regardaient dans le métro. Mais les autres voyageurs étaient plutôt indifférents, malgré quelques regards curieux. Quand on a changé de ligne de métro, une mère a dit à sa petite fille « Oui, c'est un violoncelle, et l'autre c'est un violon. Ce sont des musiciens. Veux-tu devenir musicienne ?» Comme j'étais bousculée par la foule et à cause du bruit, je n'ai pas entendu la réponse. De toute façon, si la fillette est curieuse d'en savoir plus sur les instruments de musique, cette scène aura été un cours d'initiation. J'ai accompagné Annie et Lionel jusqu'à la station de correspondance. Il leur restait 2 arrêts avant leur hôtel, qui était proche de leur station d'arrivée. J'espère que cette expérience ne les a pas trop fatigués. En fait, je n'étais pas très rassurée jusqu'au moment de les voir briller sur la scène du Grand Théâtre. Briller, oui. Surtout Lionel, parce que c'est lui le premier violoncelle, donc dont le jeu talentueux s'entend le plus facilement. Malgré son âge jeune, 25 ans, il maîtrise la musique avec facilité. Il interprète avec grâce et aisance. Il y avait aussi le violon solo et le directeur musical, le chef Huss, Kirill Troussov. Il fit ses débuts à 6 ans en philharmonique de Saint-Pétersbourg. Il captiva l'attention internationale lors d'un concert en 2009 à Paris. Il joua avec l'Orchestre National de France sous la direction de Daniel Gatti au Théâtre des Champs-Élysées, un concert retransmis en direct par Radio France. Il enthousiasma le public mélomane aussi bien que les critiques. Lors du concert à Pékin sous sa direction, l'orchestre a alterné les 2-4 saisons, celles de Vivaldi et de Piazzolla. Le public redécouvrait les différents aspects des 4 saisons en Europe et en Amérique du Sud, la finesse, la douceur alternée de l'enthousiasme et la chaleur. C'était comme si on avait fait des allers-retours entre l'Europe et Buenos Aires. Alors que les notes du Verano Portono s'élevaient, j'ai vu une danseuse vêtue d'une robe rouge danser le flamenco, attentivement et fougueusement. Sa robe oscillait comme le feu, pas d'expression sur le visage, il fallait lire ses pas de danse pour la comprendre. Il fallait trouver des défauts à ce concert excellent. Peut-être pourrait-on dire que les 4 saisons de Vivaldi auraient pu être encore plus distinctes. Mais de toute façon, le public était complet. Le concert s'est clôturé avec le printemps de Piazzolla. Je vous dis au revoir avec cette composition. Merci de votre attention. À la prochaine.